Donc, malgré l'intitulé plutôt général de mon titre, XIIIe siècle, mon exposé portera principalement sur Thomas d'Aquin, qui est l'un des personnages les plus importants de son siècle. Il serait assez facile de comparer la morale thomasienne avec certaines œuvres de Kant, telles que la métaphysique des mœurs ou l'anthropologie du point de vue pragmatique. Il suffirait de confronter ces deux édifices, ces deux systèmes moraux, celui de Thomas et celui de Kant, pour en comparer les contenus. Nous serions ainsi face à deux théories de la vertu, deux théories du droit, deux conceptions de la passion, et ainsi de suite. On trouverait sans doute quelques points communs, mais surtout de profondes divergences. À la fin d'une telle analyse, les deux édifices resteraient l'un à côté de l'autre, et très probablement, on n'aurait produit aucun résultat théoriquement remarquable, mais uniquement des tableaux comparatifs, historiques et lexicaux plus ou moins complexes. Nous pourrions par exemple observer la différence entre la distinction thomasienne entre raison supérieure et raison inférieure et la comparer avec ce que Kant entend par faculté des connaissances supérieures et inférieures. Ou bien on pourrait élargir cette comparaison à certaines dispositions comme les mépris, par exemple les contentus, qui est pour Thomas le refus de respecter un précepte divin, pour Kant en général, c'est le fait de manquer de respect à l'homme en général. Je crains cependant que, suivant cette méthode, on infligerait à ces deux doctrines une sorte de momification. Je reprends l'expression de Maurice de Wolff qu'il avait utilisée justement à propos d'une bataille entre néo-thomistes et kantiens. Il en va autrement, ce que j'espère démontrer aujourd'hui, si l'on compare la structure profonde de la morale thomasienne avec les données les plus fondamentales de la philosophie pratique de Kant, qui se trouve exposée notamment dans la fondation de la métaphysique des mœurs, dans la critique de la raison pratique et dans la religion, dans les limites de la simple raison. Ici, nous trouvons des intuitions communes aux deux auteurs. Il faut alors s'égarder des deux dangers, à savoir celui de lire les deux auteurs dans une optique concordiste, d'après laquelle Thomas aurait anticipé les points les plus importants de la morale kantienne, ce qui est loin d'être exact, ou bien celui de les lire dans une optique antagoniste, des destructiones philosophiae critiche inspirées à une vulgate thomiste ont déjà été tentées par des néoscolastiques au XIXe siècle, et Gilson a montré toute la faiblesse de ce genre d'opération intellectuelle, notamment dans son livre « Les philosophes et la théologie ». Je vais tout d'abord présenter un aspect de la morale aristotélicienne qui peut être pris comme point de départ ou comme point d'observation privilégié. Ensuite, je montrerai comment la théologie morale thomasienne et la philosophie pratique kantienne se rejoignent, ou du moins se rapprochent, dans un certain nombre d'intuitions fondamentales à ce sujet. Ces intuitions se cristallisent autour d'un certain nombre de concepts, notamment les concepts de loi, de dispositions et de personnes ou personnalités. L'homme est un être moral. Malgré le fait que les conceptions philosophiques de l'être humain ont été extrêmement nombreuses et diverses au cours de l'histoire, il semblerait qu'aucun philosophe n'ait jamais voulu priver l'homme des morales en en faisant un être purement mécanique ou purement naturel. À côté d'une structure naturelle ou physique, il y a dans l'homme une structure morale. Donc la morale touche la physiologie, mais elle en est distante. Respirer ou digérer ne relève pas de la morale. Choisir ou être heureux ne relève pas de la physiologie. Dans le premier cas, nous sommes plus proches des animaux ou des machines ou des enfants. Dans le second, nous sommes des personnes. Cependant, ces deux réalités ne doivent pas seulement coexister dans la seule et unique réalité qu'est l'homme. Ils doivent plus précisément s'articuler l'une avec l'autre. Ils doivent, ce qui est plus difficile à concevoir, se rendre mutuellement possible. Pour apprécier toute la complexité de cette question, je partirai du problème qu'on pourrait appeler le problème du début de la vie morale. En effet, l'être humain n'est pas un être moral pendant toute la durée de son existence. À la naissance et durant la première époque de notre existence, nous ne sommes pas responsable, nous sommes plus proches des animaux que des hommes adultes. La vie morale ou disposition à la moralité se manifeste à un certain moment dans le temps et dans le cours de la vie. La tendance humaine à la moralité est-elle dès le début cachée dans l'être humain dans lequel elle se manifesterait ensuite dans le temps avec le ou grâce au développement de cet être, comme par exemple il est le cas pour la capacité de parler ou d'apprendre une discipline? Ou bien faut-il plutôt croire que la tendance morale a une origine radicalement autre que les dispositions organiques de l'être humain? Il me paraît acquis que pour une philosophie de la liberté, il serait dangereux de fonder les dispositions morales ou une partie de celles-ci sur l'organique. La question que j'ai appelée du début de la vie morale apparaît chez Aristote sous une forme légèrement différente, à savoir comme le problème de la génération ou de l'acquisition de la vertu morale. Et, de manière plus générale, de l'éducation. D'après Aristote, au deuxième livre de l'Éthique à Nicomaque, si les vertus, je cite, si les vertus se trouvent en nous, ce n'est ni par nature ni contre nature. Leur présence s'explique au contraire par l'effet que, naturellement aptes à les recevoir, nous parvenons à leur plein épanouissement grâce à l'habitude. Fin de la citation. Cela veut dire que la vertu morale adhère à une psyché moralement neutre. Je vais préciser ultérieurement ce que j'entends par psyché moralement neutre. Si, en effet, l'homme était naturellement vicieux, la vertu serait contre nature. S'il était, en revanche, naturellement vicieux, la vertu serait contre nature. La nature et la vertu ne sont ni en opposition, ni en pleine harmonie, mais une certaine homogénéité subsiste entre ces deux réalités. Cette thèse soutient et, je dirais, rend nécessaire trois autres thèses aristotéliciennes majeures que nous rencontrons dans l'Éthique à Nicomaque et dans la Politique. La première est la théorie des qualités naturelles qui dispose à l'acquisition des différentes vertus ou des différents vices. La seconde est l'assimilation de l'éthique à l'éthique d'une théorie pédagogique. Et la troisième est la théorie qui veut que la cité ou l'État, la police, selon Aristote, soit une réalité naturelle. Si nous sommes naturellement aptes à acquérir la vertu morale ou les vertus morales, cela signifie que la vertu morale n'est que l'aboutissement d'une qualité naturelle, une sorte de graine de vertu que nous possédons dès notre naissance et par notre naissance. Donc, euthus kai et kai egenetes. Aristote appelle cette qualité une physique arité, une vertu naturelle, au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque notamment. Cette vertu naturelle n'est pas une vertu au sens propre, elle est plutôt semblable à la vertu. À la différence de la vertu au sens propre, elle peut être nuisible, telle la force dans un corps qui n'a pas de vue, dit Aristote. Cette qualité se transforme en vertu grâce à la sagesse pratique, à la phronesis, et par l'habitude à accomplir des actes vertueux qui sont des actes mesurés. Ce processus d'acquisition de la vertu morale suppose une pédagogie puisqu'il faut permettre à ces qualités de se développer avant l'âge adulte. La philosophie morale et la politique doivent donc étudier les moyens pour permettre ces développements, c'est-à-dire une éducation efficace et un système de lois qui soit juste. L'enfant, explique Aristote au livre premier de la Politique, ne possède pas d'autonomie morale. Je cite, « L'enfant étant un être imparfait, sa vertu manifestement ne peut se rapporter à sa propre personne, mais à sa fin et à l'autorité qui le dirige. » Fin de la citation. La vertu de l'enfant, étant une ébauche de vertu, n'a pas comme fin celle d'agir vertueusement, puisqu'elle manque de la perfection nécessaire à accomplir des actes vertueux au sens propre, mais celle d'imiter la vertu de l'autorité dont elle dépend, dont l'enfant dépend, qui est l'autorité paternelle. Dans un passage célèbre de l'histoire des animaux, Aristote observe, je cite, les animaux manifestent encore les différences que voici en ce qui concerne leur disposition naturelle, traduit ethos. Les uns sont doux, indolents et pointrétifs, comme les bœufs. D'autres sont irascibles, opiniâtres et inéducables, comme les sangliers. Mais de tous les animaux, l'homme seul est capable de délibération, bouleutikos. Au livre 3 de l'Éthique à Eudème, on trouve une position analogue au sujet des vertus naturelles. Aristote affirme, d'une certaine manière, toute vertu existe à la fois de manière naturelle et d'une autre façon, accompagnée de sagesse pratique, métaphronéseos. Fin de la citation. Donc, l'envie, par exemple, est une disposition naturelle à l'injustice, l'indignation, une disposition naturelle à la justice, la pudeur, une disposition naturelle à la tempérance, et ainsi de suite. Il paraît alors que la nature animale en général présente un germe de dispositions morales, dispositions qui, chez l'homme et uniquement chez l'homme, parvient à la forme de perfection qu'est la vertu morale, et cela grâce à l'action de la pédagogie et à l'application de l'intelligence, de la phronésis. La même chose peut être affirmée à propos du vice, qui est une qualité négative du caractère, des qualités naturelles négatives, une mauvaise éducation ainsi qu'un usage perverti de l'intelligence et des mauvaises habitudes, engendre le vice, ce qui n'est pas le cas chez les animaux, parce que nous ne disons pas qu'un animal est injuste. On peut alors affirmer que chez Aristote, la connotation morale est présente dans l'homme dès sa naissance et que la naissance en est la cause. La nature et la disposition morale forment une unité qui doit se développer dans la vertu, mais qui peut aussi, bien entendu, échouer et engendrer un vice, et cela même de façon irréparable. Considérée sous ce point de vue, c'est-à-dire comme une morale de l'habitude ou de l'habitus, la morale d'Aristote est bien une orthopédie, pour reprendre l'expression particulièrement pertinente de Jacques Lacan. Je précise, donc, j'ai bien affirmé que chez Aristote, la vertu ou le vice se développe dans une psyché moralement neutre. Cela ne veut pas dire psyché dépourvue des dispositions morales, mais ça veut dire psyché douée d'une disposition morale neutre, c'est-à-dire d'une ébauche des structures morales qui n'est cependant pas suffisamment développée, pas suffisamment complexe, pour être considérée comme étant pleinement bonne ou pleinement mauvaise. Dans la morale aristotélicienne, au sein de laquelle la doctrine de l'acquisition de la vertu joue un rôle fondamental, la représentation ou les concepts de la bonté ou de la méchanceté humaine n'est pas séparable de la représentation ou du concept de l'homme en tant qu'être qui répond à une structure naturelle. Nous pouvons désormais mettre en relation cette théorie avec une autre théorie célèbre d'Aristote, celle d'après laquelle l'homme est par nature un animal politique. La cité, dit Aristote, est une réalité naturelle, fusée, et l'homme est par nature un animal politique, au livre premier de la politique. La politique n'est pas un antagoniste de la nature, mais un complément plutôt de la nature. L'homme est animal politique et les politiques est naturel. Cela est tellement vrai qu'avec les dispositions morales innées, la naissance assigne aussi un rôle politique de maître, d'esclave, de fils aux hommes qui naissent et aux femmes qui naissent. Il est évident qu'on doit, du moins en partie, renoncer à une telle conception de la morale si l'on suppose qu'être bon ou mauvais ne vient pas chez l'homme de la nature, mais de la liberté, et qu'il faut, plus ou moins radicalement, séparer la liberté de la nature. Il est significatif de remarquer qu'un passage de l'écrit kantien Conjecture sur les débuts de l'histoire humaine semble faire écho à une phrase que nous lisons chez Thomas d'Aquin dans le De Malo. Kant affirme que, je cite, « des actions faites en vertu d'une volonté radicale ne peuvent entraîner avec elles aucune hérédité, avec elles au singulier, avec la volonté. » Et Thomas, dans le De Malo, question 6, « Nihil quod homo contrait ex origine sua consistit in eius voluntate. » Donc rien de ce que l'homme a contracté par son origine se fonde sur sa volonté ou appartient à sa volonté, consiste en sa volonté. Les modèles aristotéliciens tels que nous l'avons décrit est en fait remis en discussion par Thomas d'Aquin. En tant que théologien chrétien, Thomas a affaire à une autre théorie de l'enfance, à savoir une théorie de l'enfance de l'humanité. Les problèmes du début de la vie morale se bifurquent chez Thomas en deux problèmes qui sont d'une part celui de la disposition morale de l'individu, problème qu'il trouve chez Aristote, et d'autre part les problèmes de la disposition morale de l'humanité en général, c'est-à-dire de l'humanité en tant qu'espèce ayant un début dans l'histoire. L'ensemble du dispositif psychologique et moral aristotélicien est profondément altéré chez Thomas par l'introduction de la liberté, conçue comme la capacité que la volonté possède de produire sa propre motion, autrement dit, conçue comme autonomie de la volonté. À juste titre, on s'accorde à dire que la morale de Thomas est, dans sa structure générale, une morale aristotélicienne. Si ce n'était pas le cas, Thomas n'aurait pu structurer une partie considérable de la seconde part de la Somme des théologies comme un commentaire de l'éthique à Nicomaque. Mais il faut sans doute ajouter que la morale aristotélicienne a un statut très particulier dans la théologie de Thomas et dans sa conception de l'économie de l'histoire du salut, puisque la morale aristotélicienne est le résultat d'une adaptation de la psyché humaine à l'événement historique et symbolique qu'est la perte de la justice originelle ou de l'impassibilité originelle. Par justice originelle, on indique la condition dont jouissaient Adam et Ève au moment de leur création, condition qui était caractérisée par une sorte de verticalité morale et légale. L'intellect obéissait parfaitement à Dieu, l'appétit sensitif et la chair obéissaient parfaitement à l'intellect. Les rapports de perfection contrôlaient pleinement les rapports dynamiques entre ces trois niveaux, donc Dieu, intellect, chair et appétit sensitif. Avec la chute, donc avec le premier péché, cet ordonnancement est brisé, puisque après la chute et à cause de la chute, la chair peut se révolter contre l'intellect et l'intellect contre Dieu. La justice originelle était en état d'impassibilité, puisque l'intellect ou raison supérieure ne pouvait pas subir, ne pouvait pas pâtir l'action de la sensibilité et de la raison inférieure. Action qui se présente sous la forme d'un désir. La vie morale que nous connaissons actuellement, qui est d'après Thomas une vie aristotélicienne, est donc le résultat d'une adaptation, puisque le modèle aristotélicien était incompatible avec la justice originelle. La vie pré-lapsaire était alors une vie pré-aristotélicienne, dans la mesure où les facultés humaines ne pouvaient pas se comporter comme ils se comportent actuellement. Chez Aristote, nous l'avons vu, la disposition de l'individu, y compris les dispositions morales, vient de la naissance. Leur transmission est biologique. Chez Thomas d'Aquin, la naissance et la transmission séminale ne sont plus, les seuls véhicules à travers lesquels les hommes se trouvent disposés moralement. Si l'on considère l'espèce humaine comme si celle-ci était un seul individu dont les différents membres seraient autant de personnes, si l'on réduit la succession historique à une unité logique, Adam, nous dit Thomas toujours dans le De Malo, devrait jouer ou doit jouer le rôle de la volonté de cet individu. La volonté est la première puissance qui accueille le péché. Toute motion pécheresse commence par la volonté. Sans volonté de péché, il n'y a pas de péché. De manière analogue, la motion pécheresse adamique, libre et volontaire, a mis en branle la progression spécifique des hommes et de leurs actions. Ceci est le noyau de la doctrine de Thomas sur la transmission du péché originel, telle qu'elle est exposée dans la question 4 du De Malo, qui pourrait avoir l'air d'une doctrine biologique du péché originel, elle ne l'est pas en réalité. L'aspect le plus difficile de la doctrine de Thomas consiste en cela, qu'elle sépare la disposition morale fondamentale, le péché originel, des dispositions matérielles de l'individu. Nous avons donc une disposition fondamentale qui n'est pas transmise biologiquement, elle n'est pas empirique ou temporelle, dirait Kant, puisqu'elle est libre. Et avant celle-ci, nous avons des dispositions, et avec celle-ci, pardon, nous avons des dispositions biologiques qui ne sont pas morales, puisqu'elles ne sont ni coupables ni méritoires, mais qui permettent aux dispositions provenant de la liberté de s'exprimer dans les actes humains et dans la vie humaine. C'est justement cette intuition thomasienne qui anticipe, il me semble, la philosophie kantienne de la religion et sa doctrine du mal radical. Il faut en effet distinguer dans la nature humaine deux choses, à savoir la finitude de son être, l'homme est une créature et comme toute créature, elle est limitée, de la culpabilité de sa nature. Les deux choses ne sont pas identiques. La première est une disposition naturelle, la seconde est une disposition de la liberté. Ces deux réalités ont tendance à se confondre, raison pour laquelle Thomas leur consacre un certain nombre d'explications. L'effet qu'un péché originel nous vienne par voie séminale se heurte à une difficulté apparemment insurmontable. Si le péché est ce dont nous sommes responsables, et si nous ne sommes pas responsables de notre naissance, comment pourrait-on nous imputer quelque chose que nous avons de notre naissance ? Donc, cette culpa, cette culpabilité que nous avons par notre naissance. Nous ne sommes pas imputables de ce qui nous vient ex necessitate naturae, par une nécessité naturelle. Nous ne sommes pas imputables d'être brun ou grand ou... Voilà. Thomas répond que les défauts originaires ne peuvent pas nous être imputés en tant qu'ils nous viennent par voie séminale, per seminalem generationem, donc biologiquement. Mais parce que la nature humaine est affectée par une infection volontaire, puisqu'elle provient d'un principe libre et volontaire qui est Adam. Je tiens à souligner le concept d'infection volontaire. Donc la nature humaine a, pour ainsi dire, librement contracté une maladie, une infection qui la traîne vers le mal moral et qui exprime les caractères vicieux et coupables de la liberté humaine. C'est ainsi que nous observons, comme je le disais, le profond bouleversement que la morale aristotélicienne subit chez Aristote. D'après Aristote, l'origine biologique de l'homme coïncide avec l'origine de ses dispositions morales. Chez Thomas, l'origine biologique est, du moins d'un point de vue logique, différente de la disposition morale fondamentale qu'est le péché originel. Les limites anthropologiques, en tant que telles, n'ont pas de connotation morale, parce que la connotation morale se rajoute par un acte de liberté qui appartient à l'homme en tant que nature, en tant qu'espèce. Comment concevoir, cependant, qu'une espèce pêche ? Si les péchés sont des actes et si les actes sont des individus, appartiennent aux individus, singularium, selon un adage tiré du livre 2 de la métaphysique d'Aristote, on ne saurait pas expliquer comment une espèce qui est universelle puisse pécher. Cela s'explique puisque, chez Thomas d'Aquin, les péchés originels se situent tant au niveau historique qu'au niveau symbolique. Les trois personnages qui participent à la chute, qui sont Adam, Ève et les serpents, représentent respectivement la raison supérieure, la raison inférieure et la sensualité. La chair, donc. Ces questions sont traitées à la fin de la prima pars de la Somme de théologie dans les questions sur les facultés humaines. Et Thomas y reprend en partie une exégèse classique, notamment augustinienne, sur l'interprétation symbolique des trois personnages. Donc, affirmer que Adam est coupable ne signifie pas uniquement affirmer que l'homme historique, Adam, a péché, mais que la raison supérieure et donc la volonté de l'homme, en tant qu'homme, est coupable, ce qui nous amène très proche de la doctrine kantienne du mal radical. Plus précisément, il y a un aspect de la doctrine thomasienne du péché qui se rapproche de cette conception kantienne du mal. Pour Kant, l'une des exigences les plus fortes est celle de séparer, d'un côté, ce qu'il appelle les motifs empiriques de l'action et du libre arbitre, et de l'autre, les maximes qui déterminent l'action. Les premiers font partie du phénoménal et de la temporalité. Les seconds dépendent exclusivement de l'usage de la liberté. Or, d'après Thomas, tout péché actuel, c'est-à-dire tout péché post-lapsaire, considéré en tant qu'acte et non en tant qu'habitus, est composé par deux actes que Thomas appelle, utilisant une terminologie augustinienne, aversio et conversio. L'aversio, le détournement, donc c'est un détournement, est l'acte par lequel l'âme se soustrait librement et volontairement à la règle divine. La conversio, en revanche, est l'acte par lequel l'âme se porte sur les objets du vice, qui sont les objets de la convoitise sexuelle, de la, du vice en général, du goût, de l'avarice, etc. Ces deux aspects se composent, donc l'aversion et la conversion, se composent dans un seul acte, mais ils diffèrent psychologiquement l'un de l'autre, puisque l'aversion est un acte d'orgueil, de super-bien, puisqu'il est par orgueil qu'on se soustrait aux préceptes divins. En revanche, la conversion est un acte de concupiscence, parce qu'il est par concupiscence que nous nous portons sur les objets du vice. Les composés qui résultent de ces deux actes est un composé hylémorphique, puisque pour Thomas, l'aversion est la forme et la concupiscence est la matière. Donc, il faut remarquer que la liberté est associée à l'aversion et à la forme, alors que l'âme inférieure est associée à la conversion et à la matière. L'aspect le plus important de cette théorie est le suivant. Les péchés a un fondement, une racine, uniquement en tant que conversion ou matière. Et cette racine sont les objets du vice. En tant qu'aversion ou forme, le péché n'a aucun fondement, aucune racine, puisque du point de vue formel, le mal ne peut avoir aucune racine. L'aversion étant forme et acte volontaire et libre, chercher le fondement de l'aversion équivaudrait à affirmer que la volonté, donc la liberté, puisse adhérer au mal en tant que mal, ce qui est impossible. Or, si le péché actuel se produit, ce que nous pouvons observer facilement, cela veut dire, pas seulement qu'il s'est produit, mais ça veut dire qu'il est possible. C'est-à-dire que nos facultés peuvent, par orgueil et par concupiscence, agir mal et le faire librement. Les péchés originels que nous portons à nous-mêmes est précisément la condition de possibilité du péché actuel. Il est le fondement de la possibilité de cette déviance de la liberté. Et les péchés originels est un acte volontaire, libre, qui peut être attribué à l'homme en tant qu'espèce. Voici comment les espèces pêchent. J'ai l'impression que Thomas a ainsi formulé une théorie assez proche de la théorie que Kant expose dans le premier chapitre de la religion dans les limites de la simple raison, qui traite de l'inhérence du mauvais principe à côté du bon ou du mal radical dans la nature humaine. La solution kantienne consiste à isoler deux niveaux de l'action, tat, faisant dépendre chacun des deux d'un usage de la liberté. On peut appeler action tant cet usage primordial de la liberté qui consiste à suivre une maxime suprême, conforme ou non conforme à la loi morale, que les actions moralement bonnes ou moralement mauvaises qui expriment cet usage primordial de la liberté. Par conséquent, si l'on admet que l'homme porte la responsabilité de tout usage qu'il fait de sa liberté, s'il s'ensuit qu'on peut lui imputer non seulement les actions matériellement mauvaises, mais aussi la maxime suprême mauvaise de laquelle ces actions dépendent. Les penchants, Hang en allemand, à faire dépendre ses actions d'une maxime suprême mauvaise, c'est-à-dire les penchants à ne pas agir par simple respect de la loi morale, mais à la soumettre à des mobiles autres, c'est-à-dire à l'amour de soi, est originaire dans l'homme, dans l'espèce humaine, et exprime un caractère coupable et méchant de l'espèce humaine. Puisqu'il s'agit cependant d'un usage de la liberté, l'homme emporte la responsabilité. Les penchants au mal, que Kant appelle peccatum originarium, est la condition formelle des actes mauvais que Kant appelle peccata derivativa, puisque tout acte mauvais doit être reconduit à une maxime suprême dans laquelle la relation entre la loi morale et l'amour de soi est intervertie. L'amour de soi devenant condition de l'adhésion matérielle à la loi morale. Le peccatum originarium est un acte intelligible et en tant que tel non soumis aux conditions temporelles que seule la raison pratique peut connaître. Le peccatum derivativum est un factum phenomenum, c'est-à-dire un matériel, qui se donne dans l'expérience et dans la temporalité et qui peut en tant que tel être expliqué par un appareil causal phénoménal. Je vais désormais pouvoir montrer comment, grâce à la mise en parallèle de ces deux théories du mal, nous pouvons élargir la comparaison entre Thomas et Kant relativement à trois concepts fondamentaux, loi, disposition et personne, ou plutôt disposition à la personnalité. Je n'aurai pas le temps de développer ces trois aspects comme ils le mériteraient, je vais donc me limiter à une présentation rapide qui servira de piste éventuellement pour une étude ultérieure. En ce qui concerne la loi, Thomas lui consacre des pages remarquables au début des Collationes de Decem Preceptis, ainsi que dans la Somme de théologie. Il y a quatre types de lois, la loi des natures, donnée au moment de la création, la loi de la concupiscence, que le diable a semée, super seminavit, sur l'homme, la loi de la crainte, qui est l'ancienne loi ou loi de Moïse, et la loi de l'amour, qui est la nouvelle loi, la loi du Christ. La loi de la nature, la lex naturae, est la première, tant du point de vue historique, puisqu'elle coïncide avec la création, que du point de vue logique. C'est la loi la plus fondamentale, et cette loi, nous dit Thomas, n'est rien d'autre que l'intellect, le lumen intellectus in situ nobis adeo. La position thomasienne, en ce qui concerne la loi, présente au moins deux points de contact avec la doctrine de Kant. Premièrement, la différence entre légalité et moralité, ou entre l'être et esprit de la loi. Deuxièmement, la relation entre la loi et la liberté. Thomas considère que la lettre de la loi guide ou domine la main par la crainte, la main de l'homme par la crainte, alors que l'esprit de la loi guide ou domine les cœurs de l'homme par l'amour. Nous avons ici deux relations possibles entre la loi et l'action conforme à la loi. Dans le premier cas, nous rendons nos actions conformes à la loi sur la base des motifs ou des mobiles externes à la loi, c'est-à-dire la crainte d'un châtiment. Donc, j'agis bien pour ne pas encourir les conséquences d'une action mauvaise. Dans le second cas, c'est l'amour et donc la liberté, puisque lorsqu'on agit par amour, on agit librement, qui nous permet de produire des actions légales, qui sont donc légales par amour de la loi, qui est la loi évangélique. Ce ne sont pas ces dernières des actions légales uniquement du point de vue matériel, c'est-à-dire qui ne portent pas préjudice à un précepte, mais aussi du point de vue formel. Et du point de vue formel, ce sont des actions libres, puisque ce sont des actions faites par charité. Or, la charité est une disposition de la volonté. La volonté est une faculté libre, et donc la volonté exploite la motion de la volonté. Et donc tout ce qui est fait par charité est fait librement. L'ex timoris facit suos observatores servos, l'ex vero amoris facit liberos. La loi de la crainte asservie, la loi de l'amour libère. Nous avons des thèmes analogues dans la philosophie de Kant. En ce qui concerne le premier point, la différence entre légalité et moralité, on peut se référer à beaucoup d'endroits dans les corpus kantiens, mais notamment à la première partie de la critique de la raison pratique, troisième chapitre sur les mobiles de la raison pure pratique, où se trouve la distinction entre une volonté qui se conforme à la loi par les moyens d'un sentiment et d'une volonté qui le fait par respect et d'une volonté qui le fait par pur respect de la loi morale. En ce qui concerne les seconds points, donc relation entre loi et liberté, on peut voir notamment dans la critique, toujours dans la critique de la raison pratique, l'analytique de la raison pure pratique, les problèmes premiers. Au premier chapitre, où Kant démontre qu'une volonté qui est indépendante de la loi naturelle des phénomènes, des mobiles extérieurs, est une volonté libre. En ce qui concerne la disposition et la personnalité, ou plus précisément la disposition à la personnalité, dont Kant parle dans la deuxième section du premier chapitre de la religion, on ne trouve apparemment rien de semblable chez Thomas d'Aquin. Cependant, la théorie de Thomas sur la lex naturae nous offre encore des éléments utiles. C'est ce que je crois du moins. Selon Kant, je cite, la disposition à la personnalité et l'aptitude à ressentir le respect de la loi morale en tant que motif en soi suffisant de l'arbitre. Fin de la citation. Et cette disposition se distingue notamment de la disposition à l'animalité et à l'humanité qui reste sous ce que Kant appelle le titre général de l'amour de soi. Dans la critique de la raison pratique, au cours de l'analytique de la raison pure, premier chapitre, premier scoli au quatrième théorème, on ne peut pas, d'après Kant, prendre la félicité des autres comme mobile déterminant de la maxime morale, puisque cela équivaudrait à élever une condition donnée empiriquement au rang de mobile fondamental de l'arbitre. Et donc, ça équivaudrait à confondre la matière de la loi avec sa forme. Cette félicité autrui produirait, en effet, chez celui qui l'assume en tant que principe déterminant de la maxime, une satisfaction naturelle due aux besoins de la sympathie entre les hommes. Or, dans la somme de théologie, question 90 de la prima secundae, Thomas met en relation justement la félicité commune avec la nature de la loi, mais il est fait d'une telle manière qu'il lui permettrait de contourner l'objection kantienne que je viens de citer, d'après laquelle on ne peut pas élever la félicité des autres à mobile fondamental de l'agir moral. La loi concerne en effet la félicité commune, la communis felicitas, mais uniquement sur la base de son universalité et non sur la base d'un principe de plaisir. La loi doit être universelle, étant donné que la loi est quelque chose de la raison, a liquid rationis, et qu'elle est la lumière de l'intellect, lumen intellectus, elle est certes le principe de mes propres actions, mais elle est aussi le principe des actions des autres. Puisque si elle était le principe de mes actions et non celui des actions des autres, elle ne serait pas universelle et donc elle ne serait pas en loi. Si la loi est conçue en tant que principe de la félicité des autres, ce n'est pas parce que la félicité des autres nous procure du plaisir. Elle peut nous procurer du plaisir, mais pas en tant qu'objet et matière de la loi. Mais c'est parce que la loi ne peut que rendre universel son contenu. Et c'est justement son objectivité qui la pose dans une sorte d'au-delà de principe de plaisir, puisque je peux bien conformer mon plaisir à la loi, mais cela n'affecte pas la nature de la loi qui n'est pas en elle-même un principe de plaisir. La loi naturelle interdit justement de faire au prochain ce qu'on ne souhaite pas de subir de la part du prochain. Et il est par les moyens de cette universalisation du commandement que la loi me permet de sortir du principe de mon propre plaisir et du principe de ma propre félicité. Et donc c'est ainsi que je crois qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin quelque chose de très proche de ce que Kant appelle disposition à la personnalité. À l'arrière-plan de la comparaison que j'ai proposée entre Kant et Thomas d'Aquin, nous retrouvons les problèmes de la liberté. La liberté dépend du fait que la volonté puisse produire ses actes de manière autonome. Une volonté dirigée par une faculté ou un objet quelconque n'est pas une volonté libre. Dans l'anthropologie aristotélicienne, une telle faculté et une telle motion n'existent pas. La morale et la nature sont homogènes. La séparation entre le monde de la liberté et le monde de la nature est en revanche au cœur de la philosophie pratique kantienne. Je crois qu'il est chez Thomas d'Aquin qu'il faut chercher les débuts d'une réflexion qui aboutira, quelques siècles plus tard, à la séparation radicale de la liberté de la nature et qui aboutira également à l'élaboration de l'anthropologie moderne. Et j'ai terminé. Je vous remercie.